des femmes sacrément intéressant. Faut nous laisser maintenant.
Oui, nous recevrons des gens d'ici et d'ailleurs, des grands reporters, des écrivains, des documentaristes, des comédiens, des anthropologues, des photographes, des dessinateurs, des volleyeurs,
voilà.
Des conchyliculteurs, des éleveurs de concombres marins, des hockeyeurs sur gazon.
Alexandre, faudrait qu'on y aille maintenant.
Ouvert la nuit.
Du lundi au vendredi,
à partir de 21h. France Inter, la différence.
J'ai retrouvé ma voix au presque 15h04 sur Inter. Tout de suite là-bas, si j'y suis, Daniel Mermet.
Ah, les talons, le bruit des talons de Charlotte, quand elle s'apprête à descendre dans la rue. Eh bien voilà, si c'est la nuit, je taffe, rue de la Boétie, la Poste. Ah, les talons de Charlotte qui viennent résonner dans mon crâne. C'est pas mal ce bruit de talons quand même, quand elle descend son petit escalier de chez elle pour aller rejoindre Eric Alvan. Ça, c'est paname, quoi.
Salut, bah merci pour cette émission sur Paris, qui m'a rappelé aussi des somptueuses émissions de Mermet sur cette ville. Et merci aussi pour le père Léo, qui disait également que Paris c'était une idée. Voilà, salut.
Nous sommes le lundi 5 septembre. Je vous remercie pour votre émission sur Paris. Je suis une Parisienne du quartier latin de 5 générations. Jardin des plantes à Rennes de Lutèce, mais j'ai passé mes 75 ans, je suis à Pau et je m'ennuie de Paris. Moi j'ai connu la Halle aux Vins avant la fac des sciences. J'ai connu le cheval qui portait le lait à la laiterie parisienne Place Jussieu. Je fais partie des souvenirs. J'ai été très émue par votre émission. Françoise.
Bonjour, c'est Soraya de Marseille. Je viens de lire le livre de François Maspero, Les abeilles et la guêpe, en point, édition poche, et c'est superbe. Et même alors, en lisant François Maspero, et comme moi et comme beaucoup d'auditeurs, modestes et géniaux, il a beaucoup de plaisir, on respire en vous entendant. Voilà, c'était pour vous dire à vous et toute l'équipe, à Mermet et toute l'équipe, bah continuez, on respire, voilà, en vous écoutant. Et merci encore. Bonne journée, au revoir.
Allez, les auditeurs modestes et géniaux de Bègles et des environs, le repère de là-bas, si j'y suis, reprend ses activités au bar Le Poulailler, mercredi 7 septembre, à partir de 19h. Venez nombreux, au revoir.
Mais où est François Ruffin? François Ruffin, reviens. François, notre Robin des Bois, tu me manques.
Il y a la mère Carla Bruni qui nous dit qu'elle ne veut pas nous montrer le rejeton qu'elle va avoir, je sais pas quand, au mois d'octobre. Mais on s'en fout de son rejeton du Sarkozy. On aimerait mieux avoir du boulot, on aimerait mieux avoir le pouvoir d'achat, on aimerait mieux qu'ils arrêtent d'enrichir les riches et d'appauvrir les pauvres. Et le rejeton de la mère Brunime, on s'en fout. C'est Simone de Savoie, très en colère.
Simone de Savoie, très en colère, merci pour ces messages. Et tout ce que vous avez laissé dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37, chers AMG. Aujourd'hui, c'est notre émission mensuelle avec l'équipe du Monde Diplomatique. Vous le savez, je dis ça pour les nouveaux, depuis des années et des années, chaque mois, on se retrouve avec l'équipe du mensuel, le Monde Diplo, pour parler de certains papiers, de certains aspects des choses, avec leur manière de voir. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale. 01 56 40 37 37.
Bonjour à tous. C'est la rentrée pour le repère de là-bas si j'y suis de Marseille. Et pour cette rentrée, nous projetterons le film Plat de résistance de la très jeune cinéaste Pauline Mougenot. Avec sa caméra, Pauline a su capter les moments intenses qui se sont déroulés ce printemps au plateau des Glières, et elle a construit un film émouvant. Retrouvons-nous ce jeudi 8 septembre à 19h30 à l'Équitable Café Cours Julien à Marseille. Bonne journée à tous.
Heidi, là-bas si j'y suis. Le repère de Nancy, c'est comme tous les mois, le 7 à 7h du soir.
amis lorrains et auditeurs de France Inter, savez-vous que pour l'Euro 2016, les 60 jardins ouvriers aux abords du stade de football de Nancy-Tomblaine vont être sacrifiés par le foot business sous couvert d'extension de parking et de construction d'un hôtel 4 étoiles. Et tout ça pour le prestige d'une ville qui accueillera seulement une poignée de matchs. Bienvenue, bien vu le Grand Nancy. Le Repère traitera de ce thème le mercredi 7 septembre à 19h et se propose de créer un comité de soutien à ces jardins familiaux sur la ville de Tomblaine. Venez nous rejoindre, vous verrez que déjà chacun se renvoie la balle. Sinon, rendez-vous sur le tout nouveau blog du Café Repère de Nancy. Heidi !
Bonjour, j'habite dans l'Essonne. Je viens de recevoir ma feuille d'impôt foncier et je constate que la taxe spéciale d'équipement est augmentée de 200%. Un renvoi indique que cette augmentation est due au projet concernant le Grand Paris. Or, on sait que ce projet va empiéter sur des terres cultivables. Parallèlement, des associations se battent pour essayer de conserver des ceintures vertes autour de Paris afin de pouvoir se nourrir de façon la plus proche possible. Et donc, le gouvernement est en train de faire, avec nos impôts, sans nous demander notre avis, une spoliation des terres autour de la région parisienne. Au revoir.
Il y a une destruction massive de l'appareil de production aux États-Unis, bien sûr, mais aussi en France et en Europe, qui fait que quand bien même on voudrait fermer nos frontières, arrêter les importations en provenance de Chine, on ne pourrait pas parce qu'on n'a pas de production industrielle.
À l'époque, on avait des couvertures de Newsweek qui annonçaient « Nous sommes tous socialistes à présent ». On avait Time Magazine qui appelait, je cite, « à repenser Marx pour trouver les moyens de sauver le capitalisme ». Aux États-Unis, on ne passe pas son temps à repenser Marx. Surtout quand on est Time Magazine, c'est-à-dire l'un des plus grands oligopoles de la presse qui existe au monde.
Les images, évidemment, sont une arme idéologique. Dans le monde entier, les journaux télévisés sont filmés de la même manière. Immensément éclairés, tout est net du bout du nez du présentateur jusqu'au fond du studio si on montre le studio. Ça nous dit, tout est en lumière, il n'y a aucune ombre, donc il n'y a aucun doute et tout est net. C'est au point.
On a projeté une image nette. Hein, c'était des avions de guerre, un soulèvement général contre un dictateur. Et sans vouloir voir, effectivement, on nous montrait que cette aventure libyenne, c'était plus complexe.
Salut, c'est Daniel Mermet avec Serge Halimi, Martine Bullard, François-Xavier de Vetter, Sandrine Rousseau, Gérard Mordilla et Patrick Mzadé. C'est le spécial diplôme. Eh bien, nous voilà autour du numéro de septembre du Monde Diplomatique et on va tout de suite attaquer avec la crise. Ça peut étonner les auditeurs, mais c'est quand même le sujet d'entrée. Aujourd'hui, d'entrée de jeu, indétrônable fauteur de crise. C'est un papier d'Ibrahim Ward. Ibrahim Ward n'est pas parmi nous, mais nous avons Serge Halimi.
Son porte-parole. Oui, parce que depuis que nous nous sommes quittés, il y a eu le mois d'août et un certain nombre de soubresauts économiques, financiers, boursiers qui apparemment ne sont pas terminés. Et coup sur coup, l'éditorialiste du New York Times, ancien prix Nobel d'économie, Paul Krugman, vient de relever qu'il y a eu aux États-Unis la publication simultanée de deux chiffres, l'un qui est zéro, le nombre d'emplois créés en août, et l'autre qui est 2%, les taux d'intérêt sur les obligations à 10 ans de la dette américaine. Alors quel est l'intérêt de confronter ces deux chiffres ? C'est que depuis quelques mois, on nous a dit que l'emploi n'était pas un problème, ou n'était pas le problème principal, et que le problème principal, c'était la dette publique qui allait alerter les investisseurs qui ne prêteraient qu'à des taux d'intérêt croissants. Or, on découvre que l'emploi est un problème massif et que finalement, dans le cas des États-Unis, les taux d'intérêt n'ont jamais été aussi bas depuis 50 ans. Bref, il y a eu une erreur complète d'analyse économique depuis 2009 au prétexte de la dette. Et l'erreur complète d'analyse se traduit par les chiffres qui tombent en ce moment. L'emploi chavire, le chômage s'accroît, l'activité économique recule. Coup sur coup, on a appris en Espagne, aux Pays-Bas, aux États-Unis que la croissance était presque nulle. Et on apprend au même moment que les taux d'intérêt sur les obligations américaines est très faible. Bref, c'est exactement le contraire de ce que nous ont annoncé, de ce que nous ont seriné les chroniqueurs, les éditorialistes, les économistes, les politiques aussi, fanatiques des déficits, et qui veulent les réduire en ce moment. Qui veulent réduire les déficits publics à un moment où l'activité économique est presque nulle ou stagnante. C'est donc le contraire de ce qu'il faut faire. Et d'une certaine manière, on est en train d'en revenir aux politiques des années 30, aux politiques de déflation de Laval, dont les gens qui ont fait un peu d'histoire se souviennent, et auxquelles le Front populaire avait mis un terme en pratiquant des politiques keynésiennes. Et j'ai retrouvé récemment un texte de 1933 de la SFIO, qui est d'une actualité assez brûlante, puisqu'il expliquait « Cette crise est due à une rupture d'équilibre entre la production et la capacité générale d'achat. La déflation aggrave la crise, elle ralentit la production et elle diminue le rendement des impôts. » C'est exactement ce qui est en train de se produire. On a une politique déflationniste qui aggrave la crise, qui ralentit la production et qui diminue le rendement des impôts. Et à l'époque, le keynésianisme, c'était le contraire, c'est-à-dire l'intervention de l'État qui, sous forme d'investissements publics, de dépenses, maintenait la machine en marche. On construisait des routes, des équipements publics, on finançait des écoles, de la recherche, parce que le reste de l'activité économique flanchait. En quelque sorte, l'intervention de l'État se substituait à l'atonie du reste de l'économie. Et ça a été l'idée qu'on a eue au départ en 2008, quand la crise a éclaté, vous vous en souvenez, il y a 3 ans, ça a été les plans de relance, un peu partout. Et c'est ce que rappelle l'article d'Ibrahim Ward. Il rappelle qu'à l'époque, on avait des couvertures de Newsweek qui annonçaient « Nous sommes tous socialistes à présent ». On avait Time Magazine qui appelait, je cite, « à repenser Marx » pour trouver les moyens de sauver le capitalisme.
Mais sans aller aux États-Unis, on avait ça en France, il y avait une poussée marxiste incroyable.
Le fait qu'on l'ait aux États-Unis avait un caractère encore plus insolite. Aux États-Unis, on ne passe pas son temps à repenser Marx. Surtout quand on est Time Magazine, c'est-à-dire l'un des plus grands oligopoles de la presse qui existe au monde. Et alors, repenser Marx, sauver le capitalisme, il y en avait qui disaient « c'est même plus possible, c'est trop tard ». Éditorial du Washington Post, « Le capitalisme est-il mort ?»
Bon, donc ça. La réponse était
La réponse, c'est non, mais il n'en est pas loin. Donc les politiques de relance keynésiennes ont été lancées à cette époque, mais très vite, elles ont été suivies par des politiques de refroidissement, d'austérité. On a décidé de mettre de l'eau froide sur une machine économique qui déjà était froide. Et après, on dit « Ah tiens, c'est étonnant, il n'y a pas de fumée. Il n'y a pas de recette fiscale. » Il n'y a pas de recette fiscale. Et à mesure qu'on découvre qu'il n'y a pas de recette fiscale, on découvre que toutes les réductions de dépenses auxquelles on a procédé ont été avalées, compensées, écrasées par l'absence de recette fiscale due à l'absence d'activité économique. Donc il y a eu un retournement complet d'analyse et un retournement qui a des effets désastreux. Qu'on se souvienne, même aux États-Unis, au départ, vous avez Obama qui est élu et qui se vante justement de lancer des politiques keynésiennes. On va construire des routes, on va construire des systèmes électriques, on va construire des systèmes de communication informatique. Et là, en avril dernier, Obama se vante d'être le président qui a proposé, je cite, « la réduction annuelle des dépenses la plus importante de notre histoire ». C'est-à-dire exactement le contraire. Donc je dirais, pour conclure, que d'une certaine manière, les marchés ont raison de ne pas faire confiance aux gouvernants. Parce que les gouvernants sont assez volages ou assez idéologiquement bornés pour aligner leur politique sur ce que les marchés réclament. Or, il faut évidemment pas aligner sa politique sur ce que les marchés réclament, parce que les marchés sont irresponsables. Ils ne savent pas ce qu'ils veulent. À vrai dire, ils veulent tout et le contraire de tout au même moment. Donc, il ne faut surtout pas les écouter. Les marchés vont vous réclamer une baisse des dépenses publiques. Et puis quand la baisse des dépenses publiques va intervenir, ils vont dire « Ah mais c'est de la folie, avec cette baisse des dépenses publiques, on va avoir un ralentissement de l'activité ». Donc les gouvernants feraient, à mon avis, auraient une bonne idée en ne s'alignant pas sur la politique des marchés, et les marchés ont tout à fait raison de se méfier quand ils ont des gouvernants dont le seul souci, c'est la règle d'or, la réduction des dépenses publiques, inscrire des textes dans la Constitution pour interdire au Parlement d'agir quand c'est nécessaire.
Voilà le conseil du monde diplomatique. Des commentaires, Monsieur Mordillat, par exemple.
Moi, je pense qu'il y a une mesure qui devrait être prise par tout candidat dit de gauche à la prochaine élection présidentielle, qui serait la création d'un million d'emplois publics. Cette création d'emplois publics permettrait justement de relancer l'emploi, de relancer la consommation, et pourrait être financée simplement par une taxation des revenus, des dividendes des entreprises du CAC 40. L'importance aujourd'hui, c'est de justement remettre à leur place les services publics qui ont été massacrés depuis le gouvernement de M. Sarkozy, aussi bien que ce soit l'école publique, que ce soit la médecine, que ce soit la magistrature, que ce soit la poste ou les transports. Eh bien, il faut pour ça un courage politique, et ce courage politique, c'est justement de mener, ce que disait Serge Halimi, une politique keynésienne, une politique qui fait que l'on crée des emplois et que l'État s'engage. Or, au contraire, on veut voir sans arrêt l'État se désengager. Et puis, il faut appeler les choses par leur nom. Les marchés, ce sont des spéculateurs. Il faut dire les spéculateurs. Ce n'est pas une chose abstraite. Ce sont des spéculateurs. Donc, il faut non pas rassurer les marchés, mais les combattre et même, justement, les réduire, si possible, à aucune action. C'est l'État qui doit jouer son rôle.
Martine Bullard.
Il faut réglementer, à nouveau réglementer. C'est-à-dire que la crise qu'on connaît, c'est une crise de déréglementation, Serge l'a redit. Donc il faut à nouveau réglementer, et puis il faut augmenter les salaires. Il faut des emplois publics avec de l'État, avec des emplois utiles, et il faut une augmentation des salaires. La crise qu'on connaît, d'abord et avant tout, une crise des débouchés.
Une crise des recettes aussi.
Une crise des débouchés, c'est-à-dire qu'on baisse les salaires. Hein, parce que la part des salaires dans la valeur ajoutée, dans les richesses créées en France, a baissé. Mais c'est vrai en France, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai partout. Donc on a baissé les salaires. Donc, s'il n'y a pas de salaire, on consomme relativement moins. Tout est relatif, évidemment. Ou on s'endette dans des conditions extrêmement difficiles. Parce que si les taux d'intérêt sont très bas quand c'est pour les banques, ils sont relativement hauts quand c'est pour les crédits à la consommation. Vos auditeurs le savent très, 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 très bien. Donc il faut arriver à une augmentation des salaires. Et pour arriver à une augmentation des salaires et un nouveau partage de la valeur ajoutée, il n'y aura pas de relance économique s'il n'y a pas de relance des salaires. Et il n'y aura pas de relance des salaires sans un autre partage de la valeur ajoutée au profit des salaires et sans une réglementation des banques. Il faut arrêter que les entreprises réclament des taux de profit de 15%. Ce n'est plus possible.
Serge Halimi.
Peut-être pour rattacher ça à la campagne présidentielle, il faut quand même signaler qu'il y a un accord à l'heure actuelle entre Nicolas Sarkozy et deux des principaux candidats socialistes sur l'objectif de réduire les déficits à 3% du produit national brut d'ici 2013. Ça veut dire diviser le déficit par deux en deux ans, ce qui interdit le type de politique de relance qu'on vient de suggérer.
Martine.
Surtout que dans la baisse du déficit, il n'envisage aucunement d'augmenter les impôts sur les plus riches.
Les socialistes aussi.
Aujourd'hui, les marchés se sont plutôt bien comportés. Indice qui sommes nous, moins 0,05. Indice où allons-nous, 1,5. Indice d'où venons-nous, 4,0. Indice mystère et trou noir, moins 0,9. Indice individuel, 29,0. Sens de la vie, 4,8. Confiance en soi, 0,6. Température du corps 37,25, température extérieure 21 degrés. Jouissance des biens matériels 0,8. Fréquentation des toilettes 3,0. Nombre de mots employés 182. Poésie effective réelle 11,1. Taux de culpabilité moins 14,3. État du réel 3,1. Sensation du temps qui passe 4,8. Déchiffrement du réel 2,7. État du possible 0,8. Demande affective effective 1,5. Offre affective effective 1,3. Difficulté surmontée 1,7. Degré de partage 0,2. indice amour 2,0, abstraction 0,02, enthousiasme 0,8, taux de culpabilité 1,0, sécurité 0,81, absence.
Quel point commun y a-t-il entre cette boisson gazeuse, ces stylos à billes, ces lunettes et ces jouets?
TF1.
Tous sont fabriqués en France.
20 novembre 2010.
Et pour la majorité des consommateurs, le Made in France est synonyme de qualité. Ils préfèrent donc acheter français.
Par goût, simplement. Je préfère les vêtements faits en France qu'en Chine.
Privilégier les produits tricolores serait un acte citoyen. Mais en pratique, peu de gens vérifient systématiquement la provenance des produits.
Je ne fais pas attention, j'achète le prix, comme tout le monde.
Le prix, c'est évidemment ce qui décide les acheteurs. Difficile donc pour les commerçants de privilégier les fabrications françaises, surtout pour les vêtements.
Tous les produits viennent de Chine, faut arrêter. S'il n'y a pas de France, ça coûterait super cher. Faut à 10, 15, 20, 25 euros, ça ne peut pas provenir du Lot-et-Garonne, c'est pas possible.
On continue avec le diplôme de septembre, justement, avec Martine Bullard. Martine Bullard signe l'édito de ce mois-ci sur les addictions chinoises. Alors, si j'ai bien compris, Martine, moi qui suis un inculte de la finance, les Chinois roulent les mécaniques. Hein. Ils font les malins parce que, voilà, les États-Unis leur demandent des sous, viennent pleurer à leur porte. Mais vous dites, attention, amis chinois, ne faites pas trop les malins non plus.
Et oui, c'est-à-dire que c'est assez drôle de voir que ce sont les Chinois qui donnent des leçons d'économie aux Américains. Alors que, comme le disent d'ailleurs les Chinois, pendant 30 ans, on a entendu les Américains nous expliquer ce qu'il fallait qu'on fasse dans l'économie. Donc effectivement, il y a une espèce de couple infernal entre les États-Unis et la Chine. La Chine finance les États-Unis, ça achète des bons du trésor, c'est-à-dire la dette américaine, ils en achètent relativement beaucoup. Et donc les Américains dépendent des Chinois pour financer leurs déficits, et en même temps, les Chinois dépendent des Américains pour qu'ils achètent leurs produits. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de circuit comme ça en rond qui est assez infernal, parce que quand il y a une baisse des débouchés aux États-Unis, comme c'est le cas actuellement, ben, naturellement, les Chinois se retrouvent avec en grande difficulté du point de vue intérieur. Donc, les Chinois à la fois donnent des leçons aux États-Unis en disant maintenant, ça suffit, vous êtes accro à votre dette, vous devriez augmenter les salaires. C'est quand même assez drôle de voir les Chinois dire aux Américains, vous devriez augmenter les salaires et augmenter la consommation intérieure. Cela dit, en même temps, si y a un effondrement américain, les Chinois se retrouvent en difficulté. Et au sein même du pouvoir chinois, au sein du Parti communiste chinois, il y a un grand débat pour dire peut-être qu'on devrait se dégager de cette dépendance américaine. Alors, ils essaient de trois façons, et ils ont commencé à le faire. La première façon, c'est, contrairement à ce qu'on dit, il y a une augmentation du pouvoir d'achat chez les Chinois, une augmentation des salaires, 20% officiellement. Alors, on peut toujours discuter des chiffres officiels, mais de fait, la consommation a augmenté en Chine, et ils le font pas pour des raisons de bienfaisance ou de même d'idéologie, ils le font tout simplement parce qu'ils en ont besoin du point de vue intérieur. Ils ont peur aux mouvements sociaux qui se développent en Chine. Et deuxièmement, ils veulent trouver à leur production des propres débouchés. La deuxième chose qu'ils font pour essayer de se dégager des États-Unis, c'est d'aller vers l'Europe et de racheter un peu de dette européenne. C'est à la fois pour des raisons économiques, pour avoir moins de dollars dans leurs réserves et un peu plus d'euros. Donc ça, c'est une question économique. Et puis, une question politique, c'est-à-dire de dire aux États-Unis, vous voyez, on peut jouer tantôt les États-Unis, tantôt l'Europe, on n'est pas complètement à votre botte. Et enfin, troisièmement, ils essaient d'internationaliser le yuan. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a deux ans à peu près, les Chinois ont dit le dollar... les privilèges du dollar, ça suffit. Ça fait un peu à la veille du G20, donc ça fait un peu de bruit. Leur idée est que le dollar serve un peu moins dans les transactions internationales et d'arriver que le yuan, à terme, serve dans les transactions internationales. Vous aurez remarqué que sur ces deux dernières solutions, c'est évidemment des solutions libérales qu'ils proposent, avec les problèmes que posent les solutions libérales, puisqu'on connaît la crise dont on vient de décrire les dégâts. Il y a de grandes chances qu'à terme, ce soit la même chose en Chine, mais pour l'instant, on est dans cet univers-là. Je veux dire un mot aussi sur la hausse du yuan, parce qu'on nous dit si le yuan réévalue, alors les problèmes français, occidentaux seront résolus. Vous savez, il y a une énorme campagne comme ça sur l'augmentation de la monnaie chinoise, une réévaluation de la monnaie chinoise. En vérité, c'est une grande illusion, parce que pour pouvoir arrêter les importations en provenance de Chine, il faut produire. Or, il y a une destruction massive de l'appareil de production aux États-Unis, bien sûr, mais aussi en France et en Europe, qui fait que quand bien même on voudrait fermer nos frontières et produire nos chaussettes, nos baskets et nos jeans, on ne le pourrait pas parce qu'on n'a pas de production industrielle. Ça va se traduire, ça se traduirait tout simplement par une hausse très forte des augmentations de prix. Puisqu'on serait quand même obligé d'importer de Chine, mais avec des prix complètement évalués. D'ailleurs, il y a une étude des douanes qui explique française, qui explique que l'une des principales causes du déficit français vient de l'automobile, des achats à l'extérieur de l'automobile, non pas des automobiles allemandes qu'on achèterait pour les Français ou des automobiles japonaises, mais des pièces détachées, des automobiles françaises avec une marque française, Renault, Peugeot, qu'on fait fabriquer à l'étranger et qu'on ramène en France et pour faire un montage en France. Donc la question, elle n'est pas de fermer les frontières, comme on l'entend quelquefois, elle n'est pas non plus d'augmenter, de pousser à une réévaluation du yuan qui nous poserait problème, mais elle est de retravailler une importation, une reconstruction de l'industrie française. Et quand même, moi j'ai tendance à penser que je suis pas sûr que ce soit très utile d'avoir une industrie des chaussettes ou une industrie des collants, avec tout le respect que j'ai
pour les chaussettes et les collants.
Et pour les, surtout les ouvriers du textile qui malheureusement ont perdu dans les années 80 leur emploi. La question, elle est d'être, de relancer une politique industrielle de haut niveau et de haute valeur ajoutée. Ça, c'est la vraie question.
Voilà, là, un tout autre domaine dans le monde diplomatique de ce mois-ci. Profession domestique, il y a un grand reportage, un long reportage de Julien Brigaud et toute une série de papiers sur le thème du service à la personne. François-Xavier de Vetter et Sandrine Rousseau, qui viennent de sortir Raison d'agir, du balai, essai sur le ménage à domicile et le retour de la domesticité. Il y a un renouveau de l'emploi domestique dans le monde, et notamment en France, et il faut distinguer là-dedans, quand on parle de service à la personne, tout ce qui concerne les soins, l'aide aux personnes en difficulté, vulnérables, etc. Et évidemment, le ménage, qui sont deux choses différentes. Et pourtant, ça a l'air d'être aggloméré dans la même idée.
Oui, c'est une caractéristique de la politique qui est menée. Depuis une 20-30 d'années, on a des aides en faveur des services à la personne. Au départ, plutôt pour des publics fragiles, des personnes âgées, des personnes dépendantes, etc. Et puis, on a une vraie rupture en 2005 avec le plan de cohésion sociale, dit plan Borloo, où on agglomère tout, un ensemble d'activités, des activités de ménage, des 10 services de confort, et puis des activités d'aide à domicile pour les personnes âgées, pour les personnes dépendantes, pour les personnes handicapées. Et on mélange tout ça sur une logique d'exonération fiscale, de niche fiscale. On a vu très récemment le débat sur le rapport de l'Inspection Générale des Finances qui pointe l'aspect à la fois inégalitaire et inefficace de ces politiques. Effectivement, un des points les plus importants, je pense, c'est ce mélange où on met ensemble des services dont la logique est très, 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 très éloignée. On parlait tout à l'heure d'emploi public, de secteurs dans lesquels on pourra avoir de l'emploi public. L'action sociale, l'aide à la personne, était un secteur qui était en voie de constitution en 2001-2002, avec une mesure qui était très importante, qui était la mesure de l'APA, l'allocation personnalisée d'autonomie, d'aide aux personnes âgées, avec des créations d'emplois dans le secteur associatif assez nombreuses. Et ce secteur associatif, au contraire, par la loi de 2005, par la loi Borloo, a été déstabilisé au profit d'un renouveau d'un emploi de services de confort, de ménage, pour le dire rapidement, de services domestiques et non plus de services d'action sociale.
On assiste à un retour de la domesticité. Qu'est-ce qu'on entend quand on dit domestique aujourd'hui ?
Alors, on a statistiquement les emplois domestiques de gens de maison. Alors on a historiquement énormément de mal à caractériser, à définir ce que sont ces emplois et notamment à les nommer. Le terme utilisé va énormément varier, va faire l'objet de nombreuses discussions, voire de nombreux conflits, gens de maison, domestiques, bonnes, etc. Et puis, on s'est en gros stabilisé depuis quelques années sur le terme d'employé de maison, qui est la définition officielle. Ces emplois-là voient leur nombre réduire, se diminuer fortement, jusque la fin des années 80. Pourquoi est-ce que ces emplois disparaissent petit à petit? Parce que les inégalités ont plutôt tendance à régresser, parce que les domiciles évoluent, parce que le choix de l'intimité fait que héberger des domestiques devient rapidement insupportable ou très compliqué, etc. Et à partir de la fin des années 80, début des années 90, on va au contraire encourager au nom de la politique de l'emploi, à déclarer, à redéclarer et à recréer ce type d'activité. Et donc les nombreuses aides fiscales qui vont être accordées vont remplacer d'anciennes taxations, d'anciennes taxes spécifiques sur ces emplois qui vont disparaître et qui vont être remplacées par des aides, au contraire, avec une croissance. Et cette croissance va aussi s'accompagner, va aussi accompagner plutôt la croissance des inégalités. Parce que s'il y a bien un élément qui crée de l'emploi dans ce secteur-là, c'est les inégalités sociales. Plus on a d'inégalités, plus on a d'emplois domestiques, plus on a d'emplois de services à la personne, que ce soit au niveau international ou au niveau national.
Alors Sandrine Rousseau, c'est quand même un boulot qui est plutôt réservé aux femmes. On dit femmes de ménage, hein. On dit hommes de ménage, mais c'est quand même très rare.
Oui, c'est très très rare. C'est un métier qui est quasi exclusivement féminin. Et c'est un métier qui est réservé aux femmes pour aider d'autres femmes. Et c'est ça qu'il faut bien avoir en tête. C'est que là, on est quand même dans une politique publique extrêmement particulière, puisqu'on dépense beaucoup d'argent public. Enfin, plus exactement, on n'empoche pas beaucoup d'argent public en raison des niches fiscales et des déductions fiscales pour des emplois qui sont des emplois de très mauvaise qualité, puisque c'est des emplois à temps extrêmement partiel, souvent de femmes plutôt âgées, dans des conditions extrêmement difficiles. Ces femmes, les femmes de ménage, il faut savoir que dans leur sang, par exemple, il y a plus de produits chimiques que les ouvriers de la chimie. Parce que quand on fait du canard WC et tout un tas de produits chimiques, en fait, on l'absorbe. Et par ailleurs, ce sont des femmes qui travaillent dans des conditions très difficiles, puisque l'inspection du travail ne peut pas intervenir chez un particulier. Donc on est dans une politique... Mais oui, parce que c'est le domicile privé, donc on ne peut pas faire venir un inspecteur du travail. Donc on est sur une politique publique de défiscalisation, de financement à outrance de ces emplois, puisque les calculs les plus stricts font valoir un coût par emploi de 50 000 euros d'argent public. Donc on est dans une politique de l'emploi très financée pour des emplois extrêmement discriminant puisque féminin, pour des femmes plutôt âgées, dans des conditions difficiles et qui permettent pas, dans la plupart des cas, de dépasser le seuil de pauvreté. Donc là, on parle de création d'emplois, et vous disiez tout à l'heure de création d'un million d'emplois publics, et ben là, on est exactement à l'extrême opposé de ce qui se passe, et pourtant, c'est l'essentiel de la politique d'emploi qui a été faite par le gouvernement actuellement.
Gérard Mordillat, quelque chose à nous dire?
Je pense que c'est une remarquable enquête, et on aurait pu mettre en exergue la fameuse réplique de Julien Carrette dans La règle du jeu, lorsqu'il dit à Daliot « Je remercie monsieur le comte de m'avoir élevé en faisant domestique
». Je crois qu'effectivement, ça c'est un point très important. On a un changement de la politique sociale, on fait dépendre l'aide sociale d'accorder une aide directement aux plus démunis, on l'accorde à des milieux aisés, dans l'espoir que leur richesse va ruisseler, va descendre sur les plus pauvres en pouvant les embaucher. Donc au lieu d'accorder de l'aide directement à ceux qui en ont besoin, on exonère fiscalement les plus riches dans l'espoir qu'ils créent de l'emploi, mais de l'emploi qui reste de très 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 mauvaise qualité.
Mais la théorie du ruissellement, là, elle commence à être un peu mise en cause par ceux qui sont en bas et qui attendent que les gouttes leur parviennent.
Oui, mais même par des gens qui ne sont pas tout à fait en bas. L'Inspection Générale des Finances, dans son rapport, le dit en utilisant d'autres termes, en montrant bien que c'est surcalibré, c'est le terme et les termes qu'ils utilisent, que c'est une politique inefficace, que c'est une politique anti-redistributive. C'est évidemment une niche qui a été tout de suite mise de côté parce qu'elle est sacro-sainte, sanctuarisée en raison d'une politique de l'emploi et puis d'une clientèle nombreuse de particuliers employeurs.
Sandrine Rousseau.
Il y a un principe d'égalité qui est mis en avant dans cette politique-là, qui est de dire avoir une femme de ménage chez soi, ça permet d'avoir une plus grande égalité homme-femme au sein des foyers. Et ça, ça vous fait rire, mais c'est pas si évident que ça pour beaucoup de personnes qui mettent ça en avant dans les politiques très fortement sur les sites internet, etc. Or, si on regarde les choses d'un peu près...
Vous voulez dire que j'embauche une femme de ménage et comme ça, il n'y a plus de conflit entre ma compagne et moi sur les tâches domestiques.
C'est ça.
On fait rien ni l'un ni l'autre, c'est elle qui fait tout le boulot.
Et donc, oui, mais même à regarder ça, ce qui est d'intéressant, c'est qu'on s'aperçoit que dans les couples qui font appel à une femme de ménage, les couples biactifs, parce que c'est l'essentiel, qui font appel à une femme
Des couples biactifs ?
Oui, c'est-à-dire qu'ils travaillent tous les deux.
Ah, ok. C'est le couple jeune cadre.
Voilà. Les couples qui travaillent l'un et l'autre, qui font appel à une femme de ménage, et ben on s'aperçoit que le temps de ménage des femmes diminue moins que le temps de ménage des hommes. C'est-à-dire qu'en fait, avoir recours à une femme de ménage au nom de l'égalité homme-femme, ça favorise encore plus les hommes que les femmes, donc c'est un truc de fou.
Voilà. Quelque part, à partir du moment où je t'ai payé ou à mon épouse, je ai payé une femme de ménage, je peux m'exonérer encore plus de l'ensemble des tâches collectives ou domestiques, puisque je lui ai payé. Et ça, c'est des choses qu'on entend hein, régulièrement.
C'est moi la servante du château. Je remplis les vases et je vide les siots. Je manie le balai et puis le torchon. Je fais la potée pour les cochons et puis la soupe pour les patrons. J'ai pas deux pieds dans le même sabot. J'ai de la vaillance plus qu'il n'en faut. Ici, qui c'est qui fait le boulot? C'est moi. La baronne, c'est un mijauré qui est pas capable de surveiller. C'est moi qui dirige la maison. Je compte les bouteilles et les chapons et puis les liquettes du baron. Faut avoir, comme dit monsieur le maire, un œil au balai, l'autre au cimetière. Qui c'est qui sue même en hiver? C'est moi. Faudrait pas croire que je sois un aideron. Les gars me courent au cotillon. S'ils ne gardent pas les mains dans leur poche, moi je te leur refile une taloche. Même le baron quand il s'approche, je le chasse à grands coups de plumeau. J'ai de la vertu plus qu'il n'en faut. Qui sera la rosière du hameau? C'est moi. Pour me consoler, j'étais trinqué avec Nicolas le riche meunier. On a dansé sous les lampions. Le v'là qui tripote mon jupon pour voir si c'est pas du coton. Moi je le laisse faire, je pense au moulin. C'est quand il gèle qu'on cueille les coins. Qui corra l'homme, qui corra le grain? C'est moi. Je serai pas rosière, mais je serai patronne. Et je me mettrai un chapeau pour faire visite à la baronne. Changement d'herbage, je réjouis les veaux. Qui sera l'invité du château? C'est moi.
On continue avec le diplôme de septembre, avec Gérard Mordillat, qui est vraiment quelqu'un de pas très net. Pas très net, Gérard Mordillat, qui fait, comme cinéaste quand même, là, hein, c'est sous cette... L'éloge du flou, parce qu'effectivement, on veut que ce soit de plus en plus précis, de plus en plus à trois dimensions, de plus en plus en haute définition. Or, Mordillat dit, oui, c'est pas si sûr.
Non, parce qu'on s'aperçoit que les images, évidemment, sont une arme idéologique. L'exemple le plus simple à citer est celui des journaux télévisés. Dans le monde entier, les journaux télévisés sont filmés de la même manière. Ils sont filmés avec une très grande profondeur de champ, immensément éclairée. Tout est net du bout du nez du présentateur jusqu'au fond du studio, si on montre le studio. Eh bien, le message que nous envoie le média lui-même est plus fort que ce que peut dire le présentateur. Ça nous dit « tout est en lumière ». Il n'y a aucune ombre, donc il n'y a aucun doute, et tout est net. C'est au point. Donc c'est un discours de vérité, et c'est le discours de vérité du pouvoir. Et le présentateur ou la présentatrice dirait blablabla, 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 le message passerait. C'est la vérité. Donc, remettre en cause cette idéologie du net, c'est-à-dire que le net est soudain paré d'une vertu morale. Si c'est net, c'est que c'est moral. Non seulement c'est moral, mais en plus, c'est la voie de la vérité. Donc on comprend que l'enjeu des images et l'enjeu de la façon de les diffuser et de les montrer est un enjeu idéologique. Pas seulement un enjeu artistique, c'est aussi un enjeu idéologique. Or, on sait bien que, par exemple, au cinéma, il n'y a jamais de plan flou. Tout est toujours net Et lorsque l'on tourne un film et qu'on hésite sur qui faire le point, s'il y a 3-4 acteurs, sur qui fait-on le point, la réponse est unanime sur tous les plateaux du monde, c'est « focus on money », c'est-à-dire on fait le point sur celui qui rapporte le plus d'argent, sur l'acteur le plus connu, sur la vedette du film. Et là aussi, le média nous envoie un message très puissant. Le cinéma est un anxiolytique parfait. Tout est maîtrisé, c'est net, c'est éclairé, il n'y a pas de doute, et le discours est toujours le discours de la cause à effet. Chaque scène ouvre sur la scène suivante et explique la scène précédente. Et donc, vous pouvez voir le tuerie la plus atroce, la guerre la plus destructrice, les monstres les plus effrayants, vous sortez du cinéma rassuré, puisque justement, le cinéma, en tant que cinéma, vous a envoyé le message que non seulement tout était maîtrisé, tout était net, tout était lumineux, et que même si on finit par ne pas savoir qui est l'assassin, eh bien, au moins, on sait qu'on ne sait pas qui est l'assassin. Et donc, vous êtes rassuré. Donc, cet enjeu des images, c'est quelque chose pour moi d'immense, et s'il y avait quelque chose à faire au niveau de l'éducation nationale, ce serait bien une éducation à la lecture de l'image, aussi importante que la lecture des livres. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il serait important de montrer à des élèves, en prenant encore une fois l'exemple le plus banal, celui du journal télévisé, comment c'est filmé, comment c'est éclairé, pourquoi ces choix techniques sont aussi des choix idéologiques et des choix politiques, ce que signifie le montage et comment on peut faire apparaître une vérité qui n'est qu'une pure illusion de vérité, mais qui est vendue comme, au contraire, la chose absolument la plus morale et la plus forte. Alors, il y a un autre aspect, parce que, imaginez un journal télévisé où il y aurait de l'ombre et où il y aurait du flou. Soudain, tous les téléspectateurs seraient désarçonnés, puisque s'il y a de l'ombre, s'il qu'il y a du doute, et s'il y a du doute, c'est qu'on doit réfléchir. Or, réfléchir, c'est le pire des péchés pour ceux qui diffusent les télévisions. Si soudain les téléspectateurs se mettent à réfléchir, c'est la révolution. Donc, il n'y a jamais d'ombre. Et s'il y avait du flou, ça signifierait aussi que la chose est incertaine. Imaginez, par exemple, tel ou tel homme politique venant affirmer telle ou telle chose à la télévision. Prenons un exemple, Monsieur Guéant venant affirmer que jamais la police n'a espionné le monde et qu'à ce moment-là, l'image passe au flou. On se dirait, ah, il y a quelque chose d'assez spécial, là, il faut s'interroger sur cette image, sur ce qu'on nous dit, sur ce message que nous recevons. Or, on s'aperçoit que la télévision a un usage du flou très particulier, qui a un mot affreux, qui s'appelle le floutage. Or, qui floute-t-on ? On ne floute jamais les puissants. On floute toujours, au contraire, les exclus, les soupçonnés, les malades, les pauvres, les immigrés, etc. C'est-à-dire que là, le discours est de mettre très clairement en doute immédiatement ce que les uns et les autres viennent de témoigner. C'est pour dire aux téléspectateurs, on vous montre ce qu'on ne devrait pas vous montrer, mais on vous le montre parce que nous avons une grande conscience de ce qu'est notre responsabilité de journaliste, mais attention, ce que dit tel ou tel, ça... On ne sait pas si c'est vrai. Alors que lorsqu'on revient au présentateur, tout est net et en lumière, et là, la vérité s'exprime. Voilà, c'est ça que j'ai voulu montrer, cet enjeu fondamental des images, de la lecture des images, et comment nous ne devons pas nous laisser abuser par, justement, cette production de vérité qui n'est qu'une production, finalement, de fiction de vérité.
Bon, voilà, c'est net et précis. Comment on fera pour mettre un peu de flou sur ce que dit Mordillat vers la fin, hein ?
Il faudrait qu'on mette...
Hein ?
Une valse lente tourne et puis se plante dans mon cinéma. Le son tourbillonne, la lumière est bonne au Nicaragua. Si la longue plainte ne s'est pas éteinte sous les projecteurs, le scénario cale, la cause est banale pour les spectateurs. La télé bavarde, sourit et se farde pour la caméra. La vie est si belle, disent les nouvelles, qu'on n'en parle pas. Si les mots se tordent, on saute à la corde et la météo dit que les nuages forment un barrage, mais le ciel est beau. mais l'écran s'illumine. Le journal terminé. Le client se ranime.
On est toujours avec le monde diplomatique de ce mois de septembre. Et il y a une page sur la Libye qui est signée de Patrick Mzadeh. Vous étiez diplomate en Libye et vous n'êtes pas aussi enthousiaste dans vos analyses que certains gouvernements français, par exemple, qui sont très heureux de la situation et qui s'en félicitent.
Si vous voulez, depuis le début, je trouve que ce qu'on a vu tout à l'heure avec M. Mordillat est intéressant, parce qu'on nous a projeté une image nette. Hein, c'était des avions de guerre, un soulèvement général contre un dictateur, et sans vouloir voir effectivement ou nous montrer que c'était plus complexe que ça. Et c'est effectivement ce que j'ai essayé de dire depuis le début. Comme toute guerre, il y a forcément beaucoup de propagande qui s'y mêle, quelle que soit la justesse de la cause d'ailleurs, et on l'a vu particulièrement avec cette aventure libyenne, et ça continue, puisque il y a un double langage qui consiste à dire d'une part, c'est les Libyens qui se sont libérés, c'est eux qui ont fait le travail, mais aussi cocorico, satisfaction, les bombardements ont permis justement d'emporter la décision militaire, et c'est ce que j'essaye de montrer un petit peu, c'est qu'en fait la décision militaire, elle n'a pas été emportée justement par ce qu'on croyait, c'est-à-dire les gens de l'Est, enfin, le front de l'Est ou le front de Misrata, sur lesquels on a quand même lancé pas loin de 8000 bombes, mais par effectivement une tribu arabe des montagnes de l'Ouest, sûrement soutenue aussi plus clandestinement par la coalition, mais à la marge, qui eux ont emporté la décision grâce à des tactiques purement libyennes et loin des médias.
Mais à l'heure où nous parlons, on ne sait pas très bien où se trouve Kadhafi, et est-ce que la victoire est complète ? Les combats continuent, il y a encore des poches de résistance.
Oui, tout à fait. Alors, c'est ce que j'essaye de montrer dans l'article, ce que j'ai montré aussi dans le livre que j'ai fait sur ce pays, c'est qu'effectivement, le pouvoir de Kadhafi s'est appuyé sur les tribus par un système de rétribution et de compromission. Alors, certes, il y avait de la répression, mais il y avait justement beaucoup aussi de rétribution qui pouvait se permettre grâce à la rente pétrolière, ça c'est important de le dire, plus de 90% des revenus du pays. Et donc effectivement, ces zones, j'appellerais tribales, mais enfin je veux pas rester dans le... Souvent, ça peut avoir une connotation péjorative, mais en tout cas, où il y a des proches de Kadhafi qui l'ont soutenu depuis 40 ans, qui ont des incises territoriales, restent effectivement fidèles, en tout cas plus ou moins activement, c'est-à-dire les armes à la main ou en tout cas un soutien logistique indirect. Et d'ailleurs, les insurgés se sont bien gardés pour l'instant d'y pénétrer. Ils essaient de négocier. Et c'est ce que je montre aussi dans l'article, justement, que l'importance de la négociation dans la tradition politique et la tradition libyenne, c'est que maintenant, on va essayer justement de trouver des issues négociées pour éviter de rentrer dans un conflit où là, pour le compte, il y aurait forcément des connotations tribales, claniques, et ça aura des incidences sur la reconstruction d'un vivre-ensemble libyen, qui est quand même l'enjeu de cette phase post-Kadhafi.
Sur l'intervention occidentale, l'OTAN, la France, encore une fois, était très présente, médiatiquement aussi très très présente. Pourquoi là et pas, par exemple, en Syrie ?
Alors, je vais revenir d'abord à la Libye. Moi, je pense que, bien sûr, il y a des intérêts économiques, il y a des intérêts stratégiques à long terme. Je pense que l'élément déclencheur de cette affaire pour le gouvernement et le gouvernement Sarkozy, c'était de vouloir faire, quelque part, montrer que la France, cette fois-ci, était du côté des peuples. Hein, sur la Tunisie, le moins qu'on puisse dire, c'est que
c'était pas le cas.
C'était pas le cas. Sur l'Égypte, on a été assez peu audible. Et donc là, on se s'est dit finalement, un dictateur en fin de règne, un petit pays à une heure de vol ou une heure et demie de vol des bases françaises, c'est à notre portée. Et le pari, si on gagne le pari, bah, c'est tout bénéfice et tout bénéfice pour repositionner la France dans la diplomatie et puis au plan intérieur aussi. Hein, n'oublions pas qu'on entre bientôt dans une campagne électorale et même si la politique étrangère joue à la marge, mais quand même, on voit bien.
Et les ressources pétrolières aussi nous intéressent bien.
Alors oui, bien sûr, les ressources pétrolières, mais je pense que là, d'abord, on avait le pétrole avec Kadhafi, hein, donc et puis de toute façon, il y en aura, alors que ce soit 30 ou 35, enfin 20 ou 25%, mais je crois que les Russes et les Chinois seront présents et le nouveau régime ne pourra pas revenir sur les grands équilibres qui étaient auparavant. Donc oui, certes, c'est important. Alors n'oublions pas aussi, c'est important, mais le business de l'armement et la défense, parce que je peux vous dire que ça va être la ruée maintenant sur la vente d'armes et puis les sociétés de sécurité et le mercenariat. D'ailleurs, on voit bien que c'est déjà le cas pour la Kadhafi, sa tête est mise à prix. Et moi, j'ai des informations selon lesquelles il y a déjà des mercenaires et des chasseurs de primes qui sont sur le terrain. Donc tout ça, ça va devenir un enjeu énorme. Et on peut imaginer que les rafales qu'on n'a pas vendues à Kadhafi, on tentera de les vendre au régime post-Kadhafi.
Donc BHL avait raison et ils peuvent fanfaronner.
Oui, alors, si vous voulez, je crois que là aussi, il faut être très prudent. Moi, j'ai en mémoire, vous savez, Bush sur son porte-avions en 2003, en disant c'est la fin des opérations militaires, et quelques mois après, on avait Fallujah. Alors, c'est pas du tout la même chose en Libye, mais comme vous le disiez, il y a des zones, et le Grand Sud, on n'en a pas parlé, mais le Grand Sud, c'est une région qui a soutenu Kadhafi, qui le soutient toujours, les Touaregs, enfin, et tout ça, ce n'est pas réglé. Il y a des armes en circulation partout, donc je pense qu'on risque d'avoir de toute façon une violence résiduelle. Il y a encore des combats, et je crois qu'il faut se garder de tout triomphalisme. Alors, ensuite, il y a deux autres choses, je crois, qui sont importantes de souligner, parce que là aussi, dans l'image nette qu'on nous a présentée, ou qu'on a cherché à nous présenter, on parle jamais non plus. Parce que le lumpen prolétariat en Libye, ce sont les travailleurs étrangers. Il y a plus de 2,5 millions de travailleurs étrangers qui ont été, pour certains, victimes d'exactions, d'ailleurs, par les insurgés eux-mêmes, parce qu'on les a assimilés à des mercenaires africains, et là, la propagande a bien joué aussi. Mais ces gens-là, quels seront leurs droits dans la Libye à venir? Donc moi, j'ai tendance à penser que les fondamentaux reprendront le dessus, c'est la rente pétrolière, il y a un racisme dominant, et donc on fera revenir les Africains, parce que de toute façon, il y en aura besoin pour reconstruire le pays, c'est absolument indispensable. Et puis, je crois que de ce côté-là, on n'a pas parlé d'ailleurs des droits des Africains hein, dans la Libye post-Kadhafi. Et puis il y a une deuxième chose aussi que maintenant, après avoir applaudi au bombardement, la quasi-totalité des médias maintenant brandit le spectre de l'islamisme. Donc on a déjà fait le coup avec la Tunisie et l'Égypte. Bon, et là aussi, on voudrait que les gens se libèrent. Mais on voudrait qu'ils aient un régime.
Libère comme nous souhaitons qu'ils se libèrent.
Voilà, comme nous le souhaitons. Et c'est ce qu'a dit BHL, d'ailleurs, au début. Moi, j'avais fait une réponse à BHL dans un article, une nombreuses tribunes qu'il a publiées, où il a dit « Mes amis du CNT m'ont assuré que la Libye sera laïque ». Mais ça veut rien dire. Si vous voulez, déjà, bon, le mot en arabe existe, mais c'est une traduction d'un mot occidental. Et puis, aller dire aux Libyens, moi, tous les Libyens que je connais, même les plus, entre guillemets, progressistes, me diront pas, on veut quelque chose de laïque. Donc, tout est dans la distance qu'on envisage par rapport à la religion. Et là aussi, on voit bien que maintenant, on met l'accent, on diabolise les islamistes en Libye, et on est tombé dans le travers inverse. Bon, bien sûr, il y en a. Bien sûr, ça va être un débat d'idées. Ils feront partie du poids de la scène politique, d'autant plus qu'ils ont été en pointe sur les combats. Oui. Mais il faut arrêter maintenant. Donc là, effectivement, je crois que on a vraiment eu tout le spectre de la propagande. Alors, on va appeler ça communication gouvernementale, mais en tout cas sur ce conflit libyen. Et je pense qu'on l'a encore, puisque on continue à bombarder. On continue à bombarder. Donc, le mandat, c'était protection des populations civiles. Bon, ça ne faisait aucun doute. Mais enfin, le fait qu'on continue à bombarder quelques pro-Kadhafis qui se cachent à Bani Walid ou à Sirte, est-ce qu'on est encore dans le mandat de protection des populations civiles? Donc, J'aurais tendance à penser que maintenant, on est dans cette poursuite des bombardements pour légitimer effectivement le CNT, parce qu'ils ont besoin pour le compte d'une vraie légitimation à l'étranger, parce qu'ils ne l'ont pas vraiment à l'intérieur.
Voilà, merci à tous, merci à toute l'équipe du Monde Diplomatique, Serge Halimi, Martine Bullard, François-Xavier de Vetter, Sandrine Rousseau, Gérard Mordilla et Patrick Mzadeh. Je rappelle le bouquin du ballet, essai sur le ménage à domicile, retour de la domesticité de François-Xavier de Vetter et Sandrine Rousseau, aux éditions Raison d'agir, et puis au cœur de la Libye de Kadhafi de Patrick Mzadeh aux éditions Lattès. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas, si j'y suis, ainsi que sur le site là-bas.org, là-bas.org, où vous pouvez réécouter cette émission et faire tous les commentaires que vous voulez. À la technique aujourd'hui, Gilles Gaillard et Grégory Wallon, Bertrand Chompton et Franck Adhérer ont réalisé cette émission, assistés de Marina Touyez et Grégory Salomonovitch. Attends de pied ferme vos messages sur le répondeur de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
France Inter présente René l'Énervé au Théâtre du Rond-Point du 7 septembre au 29 octobre. Insolence, audace et pitrerie, rythme en chanson, l'envol délirant d'un petit épicier nerveux vers les sommets du pouvoir. Un opéra bouffe tumultueux, écrit et mis en scène par Jean-Michel Ribes et composé par Reinhard Wagner. Retrouvez René l'Énervé dans les émissions de France Inter et sur franceinter.fr.
On se retrouve demain à 15h pour là-bas si j'y suis sur France Inter, où il est 16h. Je vous laisse pour les infos avec Laetitia Gaillet. Salut.
Les députés ont entamé cet après-midi l'examen des mesures de rigueur du plan Fillon. Ils ont obtenu que le gouvernement lâche un peu de lest sur les plus-values immobilières, par exemple. L'exonération sera partielle à partir de 15 ans et totale après 30 ans. La mesure entrera en vigueur au 1er février prochain. Le relèvement de la TVA sur les billets d'entrée des parcs à thème, lui, est remplacé par une taxe de 2% sur les nuitées dans les hôtels de luxe. L'examen du collectif budgétaire qui doit aussi valider le plan d'aide à la Grèce s'achèvera demain. Ensuite, il ira au Sénat jeudi. Alors ces mesures doivent permettre de dégager 12 milliards d'euros de recettes nouvelles. Le plan est discuté, on le sait, dans un contexte de nervosité des marchés. En Italie, pardon, Milan poursuit sa chute, moins 3% à la bourse cet après-midi. D'ailleurs, des milliers de personnes sont descendues dans les rues italiennes aujourd'hui pour dénoncer le plan d'austérité examiné aujourd'hui, lui, par les sénateurs. Le gouvernement entend poser maintenant la question de confiance au Parlement. Enfin, aux États-Unis, Wall Street a également ouvert en baisse tout à l'heure, moins 1,64%. Pour le Dow Jones. Un à un, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie de La Haye juge ses anciens tortionnaires. Aujourd'hui, il a condamné à 27 ans de prison Momchilo Pericic pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre en Bosnie et en Croatie. Depuis la mort de Slobodan Milosevic en 2006, c'est le plus haut responsable du régime serbe à être jugé. Entre 93 et 98, le général Pericic était chef d'état-major de l'armée yougoslave, Pierre Benazet.
Pendant les guerres d'éclatement de la Yougoslavie, Momchilo Pericic faisait moins la une de la presse internationale que d'autres chefs de guerre serbes comme Milošević, Karadžić ou Mladić, mais il n'en a pas moins joué un rôle central dans les conflits. C'est d'ailleurs son niveau élevé de responsabilité qui a été un des facteurs déterminants pour la lourdeur de sa peine. Le général Momchilo Pericic a en effet occupé de 93 jusqu'à 96, soit un an après la fin de la guerre, la fonction de chef d'état-major de l'armée yougoslave, le poste le plus élevé dans la hiérarchie militaire. Il a surtout été condamné par le tribunal pénal international en raison du soutien apporté aux armées des Serbes de Bosnie et de Krajina Serbe de Croatie, des armées dont le tribunal a estimé qu'il ne pouvait ignorer les crimes. Momchilo Pericic a aidé ces armées serbes en leur fournissant des armes, un soutien logistique, des soldats et des officiers appartenant à la JNA, l'armée de la Fédération Yougoslave. À ce titre, il a été condamné pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité, pour les massacres de Srebrenica, le bombardement de Zagreb et le siège de Sarajevo. Pierre Benazet, France Inter. à Bruxelles.
Le procès de Bernard Barési a lui tourné court aujourd'hui à Colmar. La cour d'assises l'a renvoyé au mois de décembre. Cette figure du grand banditisme marseillais devait être rejugée pour une attaque d'un fourgon blindé en 90. Officiellement, il n'est pas en campagne, mais Nicolas Sarkozy n'hésite pas à utiliser les slogans de 2007 « Travailler plus pour gagner plus ». Lors d'un déplacement dans la Loire cet après-midi, le chef de l'État a déclaré devant un parterre de routiers « Notre pays ne s'en sortira pas en travaillant moins. J'ai plutôt envie, dit-il, de donner satisfaction à ceux qui disent « Laissez-moi travailler plus ». Fermez le banc, 16h03 sur Inter.
Vendredi, France Inter s'installe à New York pendant toute une journée et vous propose, en exclusivité à partir de 20h, le concert de Patti Smith au Webster Hall.
Un événement unique.
Une soirée présentée par Dali.
Patti Smith en live dans les salles mythiques du rock new-yorkais. Pour le public français et américain. Et pour les auditeurs de France Inter.
Patti Smith en concert au Webster Hall de New York. Une soirée exceptionnelle à suivre sur France Inter. Vendredi à 20h.
Thank you.
France Inter. La différence.
Et tout de suite, avec Frédéric Lodéon pour Carrefour de Lodéon. Vous avez rendez-vous, bonjour.
Bonjour Laetitia. Carrefour de Lodéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. On peut avoir 20 ans et déjà s'interroger sur la forme de son travail. Et Schubert, quand il a composé sa sonate en la majeure, dont on va entendre un extrait, bien, il s'est livré à pas mal de fantaisie. Au fond, il n'a pas obéi au grand maître. Il a fait preuve d'imagination, de liberté. Et finalement, cette sonate est assez déconstruite, comme on dit aujourd'hui, en ce qui concerne la peinture, par exemple. Et ben voilà, un Schubert toujours à l'affût, toujours audacieux. Je vous propose un peu de l'Allegro vivace de cette sonate interprétée par Isabelle Faust et Alexander Melnikov. Thank you. L'Allegro vivace de la sonate en la majeure composée à 20 ans par Franz Schubert et interprétée par Isabelle Faust et Alexander Melnikov. C'est une réédition sous le titre initial d'ailleurs, publié par le label Harmonia Mundi. Il y a aussi le concerto pour violon de Beethoven, il y a du Bartok, il y a du Martinou. Enfin, c'est une très jolie collection. Et pas un nouveau pianiste, mais enfin un nouveau disque de Maciej Pikulski, qui est un Polonais, né en 1969, installé en France après pour mener ses études musicales, une carrière de soliste international aussi, de musique de chambre, et puis d'accompagnateur des plus grandes voix d'artistes lyriques tels José Van Damme, dont il fut l'accompagnateur absolument exclusif. Et ça ne l'empêche pas évidemment de jouer seul, de donner des récitals. Voici une étude tableau de Rachmaninov, opus 39, numéro 3. Alors étude, on sait que Frédéric Chopin avait transformé les exercices en petites pièces très musicales, et quelquefois qui évoquaient des sentiments profonds, même des petites aventures intérieures. Et quant à Rachmaninov, il a ajouté tableau à ses études, et c'est un tableau secret qu'on va entendre, parce qu'il a toujours refusé de dire ce qu'il y avait sur ce tableau mental. Bah, chacun d'y ajouter sa griffe.